voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Émilie Julia.
Bonjour et bienvenue dans cette émission à voix lue qui vous offre aujourd'hui une lecture d'extrait des Mémoires de guerre de Winston Churchill. C'est Brice Cousin, comédien au Jeune Théâtre National, qui vous lit des passages du premier tome de ses mémoires qui ont paru aux éditions Talendier et ont été traduites par François Kersaudy. Les Mémoires de guerre de Winston Churchill sont à la fois une grande œuvre littéraire, un témoignage de première main par l'un des trois grands protagonistes de la Seconde Guerre mondiale qui obtint, je vous le rappelle, le prix Nobel de littérature en 1953. Bonne écoute.
Mémoires de Winston Churchill de 1918 à 1945. Si je fais abstraction de l'inquiétude que j'éprouvais quant aux affaires publiques, les années qui s'écoulèrent entre 1931 et 1935 furent pour moi fort agréables. Je gagnais ma vie en dictant des articles qui avaient une large diffusion, non seulement en Grande-Bretagne et aux États-Unis, mais aussi dans les journaux les plus réputés des 16 pays européens, avant que l'ombre d'Hitler vînt s'étendre sur eux. Au début de 1931, j'avais prévu de faire une longue tournée de conférences aux États-Unis et me rendis donc à New York. Dans cette ville, je fus victime d'un accident grave qui faillit me coûter la vie. Le 13 décembre, je descendis de ma voiture du mauvais côté et traversai la 5e avenue sans penser qu'en Amérique, les voitures roulent à droite et sans prendre garde au feu rouge, alors inconnu en Angleterre. Il y eut une collision fracassante. Pendant 2 mois, je ne fus qu'une ruine. Mais à Nassau, aux Bahamas, je repris assez de force pour pouvoir me traîner. C'est dans cet état que j'entrepris une tournée de 40 conférences à travers les États-Unis, en restant allongé sur le dos toute la journée dans un compartiment de chemin de fer pour m'adresser le soir à un public nombreux. Je crois que ce fut la période la plus dure de mon existence. Pendant l'année qui suivit, je me sentis bien faible, mais avec le temps, je retrouvais mes forces. J'écrivis à la suite les 4 volumes de la vie de Marlborough, réfléchissant constamment à la situation européenne et au réarmement de l'Allemagne. Je vivais à Chartwell, où je ne manquais pas de distraction. Je construisis de mes mains la plus grande partie de 2 cottages et les longs murs d'un potager. J'édifiais aussi toutes sortes de rocailles et de jeux d'eau, de même qu'une grande piscine dont l'eau filtrée jusqu'à la limpidité pouvait être chauffée, afin de supplier à notre capricieux soleil. Enfin, du matin jusqu'à minuit, je ne connaissais pas un moment d'ennui et entouré d'une famille heureuse, je jouissais paisiblement des charmes de la vie domestique. Je m'étais lié d'amitié avec Ralph Wigram, qui était alors l'étoile montante du Foreign Office. C'était un homme charmant et courageux. Il voyait aussi clairement que moi le terrible péril qui fondait sur nous. Nous nous rencontrions souvent dans sa petite maison de North Street et il venait aussi séjourner à Chartwell en compagnie de son épouse. Grâce à ses contacts, je pus me forger une opinion de plus en plus précise sur le mouvement hitlérien. Que le lecteur me pardonne à présent une petite digression personnelle. Pendant l'été de 1932, afin de me documenter sur la vie de Marlborough, je visitais ses anciens champs de bataille aux Pays-Bas et en Allemagne. Notre expédition familiale refit le parcours suivi par Marlborough lors de sa célèbre marche de 1905 entre la Hollande et le Danube, avec passage du Rhin à Koblenz. Alors que nous cheminions dans cette magnifique contrée, je posais des questions au sujet du mouvement hitlérien et je sentis que chaque Allemand s'en souciait au plus haut degré. Je sentais régner une atmosphère hitlérienne. Après une journée passée sur les champs de bataille de Blenheim, je gagnais Munich en voiture et y demeurai près d'une semaine. À l'hôtel Regina, un monsieur se présenta. Il s'appelait Herr Amstegel, et il parlait abondamment du Führer, dont il semblait être l'intime. Ce garçon, aussi enjoué que loquace, parlait excellemment l'anglais. Je l'invitai à dîner. Il nous fit un tableau des plus intéressants des opinions d'Hitler, dont il parlait comme sous l'effet d'un charme. Il avait probablement reçu mission d'entrer en contact avec moi, et il était très désireux de plaire. Après le dîner, il se mit au piano, pour jouer avec un tel talent que nous passâmes une excellente soirée. C'était un homme des plus divertissants et, comme on sait, un favori du Führer. Il me dit que je devrais le rencontrer et que rien ne serait plus facile à organiser. Hitler venait chaque jour à l'hôtel vers 5 heures et il serait vraiment très heureux de me voir. Je n'avais alors aucun préjugé d'ordre national contre Hitler. Je connaissais mal sa doctrine et sa carrière et pas du tout son caractère. J'admire les hommes qui prennent la défense de leur pays dans la défaite, même si je ne suis pas de leur bord. Pourtant, au cours de ma conversation avec Amstegel, j'en vins à demander... « Pourquoi votre chef est-il si violent envers les Juifs? À quoi bon combattre un homme du seul fait de sa naissance ?» Sans doute rapporta-t-il ses propos à Hitler, car le lendemain, vers midi, il vint me trouver avec un air plutôt grave, et il me dit que le rendez-vous avec Hitler ne pourrait avoir lieu, parce que le Führer ne viendrait pas à l'hôtel cet après-midi-là. C'est ainsi qu'Hitler perdit son unique chance de me rencontrer. Plus tard, lorsqu'il fut devenu tout puissant, je reçus plusieurs invitations de sa part, que je déclinais toutes. Sous le verdict des institutions démocratiques, le pouvoir politique réel et l'amertume de la nation allemande étaient, dans ces années d'après-guerre, aux mains de l'état-major du Reichswehr. Ce furent les généraux qui firent et défirent les cabinets ministériels. Ils avaient trouvé en Hindenburg un symbole de leur puissance, mais en 1930, le maréchal avait 83 ans. Depuis quelque temps déjà, les généraux s'étaient rendus compte qu'il faudrait trouver un successeur satisfaisant au vieux maréchal. Mais ils furent pris de vitesse par la croissance considérable du mouvement national-socialiste. Les chefs de l'armée avaient compris qu'Hitler était le seul successeur possible à Hindenburg en tant que chef de la nation allemande. Hitler, lui, savait que son programme de redressement exigeait une alliance avec la Reichswehr. Le marché fut conclu et les chefs militaires commencèrent à persuader Hindenburg de voir en Hitler le futur chancelier du Reich. Le caporal avait fait du chemin. Hindenburg finit par consentir avec réticence et Adolf Hitler devint chancelier du Reich le 30 janvier 1933. La poigne du maître s'abattit bientôt sur tous ceux qui résistaient à l'ordre nouveau. Le 2 février, toutes les réunions ou manifestations du Parti communiste allemand furent interdites. La crise atteignit son apogée au soir du 27 février 1933, lorsque le bâtiment du Reichstag s'embrasa. On procéda dans la nuit à 4000 arrestations. Elles formèrent le prélude aux élections qui allaient suivre et assurèrent la défaite des communistes, les plus redoutables adversaires du nouveau régime. Dans l'euphorie de l'élection, les colonnes exaltées du parti défilèrent devant leur chef et lui rendirent l'hommage païen d'une retraite au flambeau à travers les rues de Berlin. Adolf Hitler était enfin arrivé, mais il n'était pas seul. Il avait appelé des profondeurs de la défaite les forces obscures et sauvages qui sommeillaient dans la race la plus ailée, la plus implacable, la plus contradictoire et la plus infortunée de toute l'Europe. Il avait fait surgir l'effroyable idole d'un Moloch dévorant dont il était à la fois le prêtre et l'incarnation. Hitler se sentait assez fort pour lancer son premier défi public. Le 9 mars 1935, on annonça officiellement la constitution d'une aviation militaire allemande. Et le 16, on déclara que le service national obligatoire était désormais introduit dans l'armée. Le nom de Wehrmacht remplaça celui de Reichswehr. L'armée était placée sous l'autorité suprême du Führer. Chaque soldat devait prêter serment non plus, comme auparavant à la constitution, mais à la personne même d'Adolf Hitler. Le ministère de la guerre était placé directement sous les ordres du Führer. À partir du moment où l'Allemagne hitlérienne avait pu réarmer sans intervention active des alliés, une seconde guerre mondiale devenait pratiquement certaine. Plus l'épreuve de force était repoussée, plus nos chances allaient diminuer d'arrêter Hitler. À l'été de 1935, l'Allemagne avait rétabli le service militaire obligatoire au mépris des traités. La Grande-Bretagne l'avait toléré et admis la reconstruction de la flotte allemande et d'une force de sous-marins égale à la. L'Allemagne nazie avait secrètement reconstitué son aviation militaire. Elle produisait depuis 2 ans des armements à un rythme accéléré. Le 7 mars 1936, Hitler annonça au Reichstag son intention de réoccuper la Rhénanie. Et au même moment, les colonnes allemandes faisaient leur entrée dans les principales villes rhénanes. Cette nouvelle fit sensation dans le monde entier. Le gouvernement français se dressa en un courroux vociférant et lança un appel à tous ses alliés ainsi qu'à la SDN. Elle ne reçut de la part des Britanniques aucun encouragement à résister à l'agression germanique. 2 années entières s'écoulèrent entre l'occupation de la Rhénanie et le viol de l'Autriche en mars 1938. L'armée allemande devenait plus forte de mois en mois. L'aviation allemande accentuait largement son avance sur la Grande-Bretagne. Les usines d'armement travaillaient à plein rendement. Les machines tournaient, les marteaux battaient nuit et jour en Allemagne, faisant de son industrie un vaste arsenal et de sa population une machine de guerre disciplinée. Le 28 mai 1937, après le couronnement du roi George VI, M. Baldwin quitta ses fonctions. Un titre de comte et la jarretière vinrent récompenser dignement ses longs états de service. Le choix de son successeur ne faisait aucun doute. M. Neville Chamberlain était de tous les ministres le plus capable et le plus énergique. Ses idées différaient beaucoup des miennes, mais je saluais l'accession au pouvoir de cette personnalité alerte, compétente et entreprenante. Nos relations continuèrent d'être distantes, spontanées et courtoises en public comme en privé. Le 15 février 1938, on apprit que le chancelier autrichien Schuschnigg avait accédé aux exigences allemandes en faisant entrer dans le cabinet autrichien le principal agent des nazis, Seyss Inquart, nommé ministre de l'Intérieur et chef de la police. Ce grave événement ne suffit pas à éviter la crise personnelle qui opposa M. Chamberlain à M. Eden. Le bruit s'était répandu qu'il existait de graves dissensions au sein du cabinet, mais les raisons en demeuraient obscures. Il y eut force pour parler et réunion, à l'issue desquelles M. Eden présenta sa démission. Tard dans la nuit du 20 février, alors que je veillais dans ma pièce familière de Chartwell, un appel téléphonique m'informa de la démission d'Eden. Je dois avouer que mon courage s'évanouit et que l'espace d'un instant, les sombres flots du désespoir vinrent me submerger. Au cours d'une longue vie, j'ai éprouvé bien des vicissitudes. Pendant toute la guerre, qui allait bientôt éclater, et même lors de ses périodes les plus sombres, je n'eus jamais de mal à dormir. Au cours de la crise de 1940, alors que tant de responsabilités pesaient sur moi, et pendant les moments difficiles et tourmentés des 5 années qui suivirent, j'ai toujours pu m'affaler sur mon lit et m'endormir une fois ma tâche accomplie. Mais cette nuit, du 20 février 1938, et en cette nuit-là seulement, le sommeil s'obstinait à me fuir. De minuit jusqu'à l'aube, je demeurais éveillé dans mon lit en proie aux affres du chagrin et de la crainte. Eden m'était apparu comme un personnage jeune et robuste qui tenait tête résolument aux assauts des grandes vagues sinistres et perfides de l'irrésolution et du renoncement, des faux calculs et des molles impulsions. Il me paraissait à cet instant incarner l'espoir du salut de la nation britannique et de cette grande et vieille race qui avait tant fait pour l'humanité et qui avait encore tant à donner. Et voilà qu'il était parti. Je regardais la lumière du jour se glisser lentement à travers les fenêtres, et c'est alors que se présenta à mon esprit la vision de la mort. À cette date, Herr von Ribbentrop était sur le point de quitter Londres pour prendre ses fonctions de ministre des Affaires étrangères du Reich. Monsieur Chamberlain donna un déjeuner d'adieu en son honneur au 10 Downing Street. Nous nous y rendîmes, mon épouse et moi. Ma femme était assise à côté de Sir Alexander Cadogan. Vers le milieu du repas, un envoyé du Foreign Office remit une enveloppe à Sir Alexander. Il l'ouvrit et s'absorba dans la lecture du contenu. Puis il se leva, se dirigea vers le Premier ministre et lui donna la lettre. Bien que l'attitude de Cadogan n'eût rien laissé deviner d'anormal, je ne pus m'empêcher de remarquer la préoccupation évidente du Premier ministre. On m'informa plus tard de sa teneur. Elle annonçait l'invasion de l'Autriche par Hitler et l'avance rapide sur Vienne des forces motorisées allemandes. Le repas se poursuivit sans la moindre interruption. Mais aussitôt après, sur un signe de son époux, Madame Chamberlain se leva en disant « Allons tous prendre le café au salon ». Nous passâmes donc au salon. Et j'eus alors l'impression très nette que M. et Mme Chamberlain souhaitaient en finir au plus vite. Une sorte de nervosité diffuse gagnait la compagnie, et chacun s'apprêtait à prendre congé des invités d'honneur. Pourtant, Herr von Ribbentrop et son épouse ne paraissaient nullement se rendre compte de cette atmosphère. Au contraire, ils s'attardèrent pendant près d'une demi-heure, entamant avec leur hôte et leur hôtesse une conversation animée. À un moment donné, je me trouvai en présence de Frau von Ribbentrop, et je lui dis en manière d'adieu « J'espère que l'Allemagne et l'Angleterre conserveront leur amitié. « Prenez garde à ne pas la compromettre, » me répondit-elle aimablement. Je suis certain qu'ils étaient tous deux parfaitement au courant de ce qui s'était passé, mais qu'ils jugeaient habile de tenir le Premier ministre éloigné de son travail et de son téléphone. Finalement, M. Chamberlain dit à l'ambassadeur du Reich « Je suis désolé, mais il faut que j'aille m'occuper d'affaires urgentes. » Et sans plus de façon, il quitta la pièce. Les Ribbentrop s'attardèrent encore, si bien que la plupart d'entre nous s'excusèrent et partirent. Ce fut la dernière fois que je vis Herr von Ribbentrop avant qu'il fût pendu. Une entrée triomphale à Vienne avait toujours été le rêve du caporal autrichien. Le parti nazi viennois avait prévu d'organiser une retraite au flambeau dans la nuit du samedi 12 mars pour accueillir le conquérant. Mais personne ne vint. La cause de ce contretemps s'ébruita lentement. La machine de guerre allemande avait traversé la frontière pour s'arrêter près de Linz. Malgré des routes parfaites, la majorité des chars étaient tombés en panne. La route de Linz à Vienne était bloquée par des véhicules lourds immobilisés. Hitler, lui-même, traversant Linz en auto, fut témoin de l'embouteillage et eut un accès de fureur. Les chars légers furent dégagés et parvinrent à Vienne le dimanche matin à l'aube. Les véhicules blindés et l'artillerie lourde motorisée furent chargés sur des plateformes de chemin de fer et c'est ainsi seulement qu'ils purent arriver à temps pour la cérémonie. On connaît les photos d'Hitler traversant Vienne au milieu de foules délirantes ou terrifiées. Mais le Führer était fou de rage au spectacle des insuffisances manifestes de sa machine de guerre. Dans la journée du dimanche, Hitler annonça la dissolution de la République autrichienne et l'annexation de son territoire à celui du Reich allemand. Le jour où les armées allemandes pénétraient en Autriche, on nous rapporta que Göring avait donné au ministre tchèque à Berlin l'assurance formelle que le Reich n'avait aucune mauvaise intention à l'égard de la Tchécoslovaquie. De son côté, M. Blum avait déclaré que la France tiendrait scrupuleusement ses engagements envers la Tchécoslovaquie. L'anxiété alla croissant pendant tout l'été. Le 12 septembre, à Nuremberg, Hitler attaqua violemment les Tchèques. Le 15, le chef des Sudètes s'enfuit en Allemagne. Au soir du 26 septembre, dans son discours de Berlin, Hitler mentionna l'Angleterre et la France en termes conciliants, mais il lança une attaque aussi grossière que brutale contre Beneš et les Tchèques. Il déclara que les Tchèques devaient évacuer les Sudètes, mais qu'une fois cette question réglée, ils se désintéresseraient de la Tchécoslovaquie. C'est ma dernière revendication territoriale en Europe. Le 14 septembre, M. Chamberlain, de sa propre initiative, avait télégraphié à Hitler pour lui proposer de le rencontrer. Trois fois en tout, le Premier ministre de Sa Majesté s'envola pour l'Allemagne, persuadé que seule la cession des Sudètes pouvait dissuader Hitler d'envahir la Tchécoslovaquie. La troisième fois, ce fut à Munich, en présence de M. Daladier et Mussolini. Les Russes n'avaient pas été invités, et les Tchèques eux-mêmes ne furent pas admis. Leur gouvernement fut informé en quelques mots secs, dans la soirée du 28, qu'une conférence des représentants des quatre puissances européennes se tiendrait le lendemain. Les quatre grands se mirent rapidement d'accord. Un mémorandum fut rédigé et signé. Il acceptait pour l'essentiel les exigences allemandes. Tandis que les quatre hommes d'État attendaient la rédaction du texte définitif, le Premier ministre demanda à Hitler s'il accepterait d'avoir avec lui un entretien particulier. Hitler s'empressa d'acquiescer. Les deux hommes d'État se retrouvèrent dans l'appartement munichois d'Hitler au matin du 30 septembre. Chamberlain présenta un projet de déclaration proclamant que la question des relations anglo-allemandes était d'une importance primordiale pour nos deux pays comme pour l'Europe et que nous considérons l'accord signé la nuit dernière ainsi que l'accord naval anglo-allemand comme des symboles du désir de nos deux peuples de ne plus jamais se faire la guerre. Hitler lut cette note et la signa sans hésiter. Chamberlain rentra en Angleterre. À Easton, où il atterrit, il agita la déclaration commune qu'il avait fait signer à Hitler et la lut aux notables et à la foule venue l'accueillir. En quittant l'aéroport, alors que sa voiture se frayait un chemin à travers les multitudes qui l'acclamaient, il dit à Halifax, assis à ses côtés, « Dans trois mois, il n'en restera rien ». Au cours de la seconde semaine de mars 1939, des rumeurs firent état de mouvements de troupes en Allemagne et en Autriche. Le 10 mars, le ministre de l'Intérieur faisait part à ses électeurs des espoirs qu'il plaçait en un plan de paix de 5 ans qui devait un jour créer un nouvel âge d'or. On en était encore à discuter avec l'Allemagne des termes d'un traité commercial. Le célèbre périodique Punch publia un dessin montrant John Bull s'éveillant d'un cauchemar avec un soupir de soulagement, tandis que les rumeurs funestes, les chimères et les soupçons de la nuit s'enfuyaient par la fenêtre. Le jour même où ce dessin fut publié, Hitler lança son ultimatum au gouvernement tchèque. Les troupes allemandes entrèrent dans Prague et prirent le contrôle absolu de l'État tchèque. Le 15, M. Chamberlain fut contraint de dire à la Chambre des communes « Je regrette, bien sûr, amèrement ce qui vient de se produire. Mais n'oublions pas que l'esprit de tous les peuples du monde reste tourné vers les espoirs de paix. » M. Chamberlain devait parler deux jours plus tard à Birmingham. J'étais convaincu qu'il accepterait de bonne grâce ce qui venait de se passer. Je fus d'autant plus surpris par sa réaction. Subitement, bien qu'il se fût trompé et eût imposé ses erreurs à ses ministres serviles comme à la malheureuse opinion publique britannique, il n'hésita pas à faire volte-face du jour au lendemain. Si Chamberlain n'avait pas réussi à comprendre Hitler, ce dernier avait totalement sous-estimé le caractère du Premier ministre britannique. Il s'était figuré que son allure si peu militaire et son amour passionné pour la paix expliquaient entièrement sa personnalité. Et il voyait dans le parapluie son symbole. Il n'avait pas vu que Neville Chamberlain n'aimait pas être abusé. Le discours de Birmingham reprochait à Hitler sa violation flagrante des accords de Munich. Le 27 avril, le Premier ministre prit la grave décision de présenter un projet de loi instituant la conscription. Seuls les hommes de 20 ans étaient appelés. Il fallait encore les entraîner et après cela les armer. Mais c'était un geste symbolique de la plus haute importance pour la France, pour la Pologne et pour toutes les nations auxquelles nous avions prodigué nos garanties. Les dernières illusions du gouvernement britannique avaient fini par se dissiper. Le cabinet s'était enfin convaincu que l'Allemagne nazie voulait la guerre. Et le Premier ministre contractait des alliances partout. La Pologne fut attaquée par l'Allemagne à l'aube du 1er septembre. Au cours de la matinée, notre mobilisation générale était décrétée et le Premier ministre m'invita à lui rendre visite au 10 Downing Street dans l'après-midi. Il m'invita à faire partie du cabinet de guerre. J'acceptais sa proposition sans faire de commentaires. Il était en mesure de m'offrir le portefeuille de la marine. J'en fus très heureux. Je fis savoir à l'amirauté que j'entrerais en fonction sur le champ et que j'arriverais à 18 heures. Sur quoi le conseil de l'amirauté eut l'obligeance d'envoyer ce signal à la flotte « Winston est de retour !» C'est ainsi que je revins à ce bureau que j'avais quitté, la mort dans l'âme presque exactement un quart de siècle plus tôt. Je retrouvais mon vieux fauteuil et à quelques dizaines de centimètres derrière moi se trouvait encore la boîte en bois que j'avais fait faire en 1911 pour y ranger les cartes. Bien plus d'un quart de siècle avait passé depuis 1911. Et voilà que le même péril mortel nous menaçait. Encore une fois. Eh bien, soit. Je n'avais plus accepté de poste officiel depuis près de 11 ans. Je n'avais donc aucune part de responsabilité dans ce qui s'était passé. Au contraire, je n'avais cessé depuis 6 ou 7 ans de prophétiser les malheurs qui étaient à présent devenus largement réalité. Bien que le Premier ministre fût mon aîné de quelques années, j'étais presque le seul animal antédiluvien. On aurait très bien pu m'en faire grief en temps de crise, lorsqu'il est naturel et populaire de faire appel à des jeunes hommes et à des idées nouvelles. Je voyais donc bien qu'il me faudrait faire un maximum d'efforts pour me maintenir à la hauteur de la génération au pouvoir et des jeunes géants qui pouvaient surgir. Je comptais pour cela sur tout le zèle et l'énergie mentale dont j'étais capable. Dans ce dessein, j'eus recours à une méthode qui s'était imposée à moi quand j'étais à l'amirauté en 1914 et 1915, et dont j'avais découvert qu'elle augmentait considérablement ma puissance de travail quotidien. Je me couchais toujours pendant au moins une heure, dès que possible dans l'après-midi, et j'exploitais à fond mon heureuse aptitude à m'endormir presque aussitôt. Je regrettais d'avoir à me coucher comme un enfant chaque après-midi, mais j'en étais récompensé par la possibilité de travailler jusqu'à 2 heures du matin, et même beaucoup plus tard, pour recommencer le lendemain entre 8 et 9 heures. J'ai gardé cette habitude pendant toute la guerre, et je la recommande. La ruée hitlérienne sur la Pologne et la déclaration de guerre à l'Allemagne par la France et l'Angleterre furent suivies par une longue pause prolongée et accablante qui provoqua l'étonnement du monde entier. Monsieur Chamberlain donna à cette période le nom de « guerre crépusculaire ». Pendant plusieurs mois, les armées françaises n'attaquèrent pas l'Allemagne. Les armées des deux pays restèrent face à face. Il n'y eut pas d'attaque aérienne contre l'Angleterre, excepté quelques vols de reconnaissance, et pas davantage de raids sur la France. L'aube du 10 mai 1940 apporta de terribles nouvelles. Les dépêches affluaient par boîte entière de l'amirauté, du War Office, du Foreign Office. Les Allemands venaient de porter le coup qu'on attendait depuis longtemps. La Hollande et la Belgique étaient envahies. Les frontières avaient été franchies à mains endroits. La manœuvre de l'armée allemande pour envahir les Pays-Bas et la France était en train de se déployer dans toute son ampleur. À 11h, le Premier ministre me rappela à Downing Street où je retrouvais Lord Halifax. Nous prîmes place à la table en face de M. Chamberlain. Il avait acquis la conviction qu'il lui serait impossible de constituer un gouvernement d'union nationale. La question était de savoir à qui il devrait conseiller au roi de s'adresser une fois sa propre démission acceptée. Il était calme, imperturbable et paraissait entièrement détaché. Il nous regardait depuis l'extrémité opposée de la table. Au cours de ma vie publique, j'ai pris part à de maintes entrevues importantes. Mais celle-ci fut certainement la plus importante de toutes. D'habitude, je parle d'abondance, mais cette fois, je gardais le silence. Halifax prit la parole. En tant que père du royaume, siégeant à la Chambre des communes, il lui serait très difficile de remplir les fonctions de Premier ministre. Il apparut clairement que la tâche allait m'incomber. Je pris alors la parole. Je déclarai que je n'entrerais en contact avec aucun des partis de l'opposition tant que le roi ne m'aurait pas chargé officiellement de constituer un gouvernement. Ainsi se termina cet entretien capital. Je revins alors à l'amirauté. Les ministres néerlandais étaient dans mon bureau, hagards et défaits, les yeux encore pleins d'images d'horreur. Ils arrivaient tout juste d'Amsterdam. Leur pays avait été attaqué sans avertissement. Une avalanche de fer et de feu s'était déversée à travers les frontières. Et lorsque les gardes-frontières hollandais avaient ouvert le feu, une attaque aérienne massive s'était abattue sur eux. L'ensemble du pays était dans un état de confusion totale. Dans l'épouvantable fracas de cette immense bataille, les propos tranquilles que nous avions tenus à Downing Street s'estompèrent. Pourtant, je me souvins qu'on m'annonça que M. Chamberlain était allé voir le roi. Un message arriva pour me convoquer au palais pour 18 heures. Je fus introduit auprès de Sa Majesté. qui me reçut très gracieusement et me pria de m'asseoir. Pendant quelques instants, le roi me scruta d'un air railleur, puis il me dit « Je suppose que vous ignorez pourquoi je vous ai fait appeler. » Entrant dans son jeu, je répondis « Sire, je n'en ai pas la moindre idée. » Il rit et me dit « Je veux vous demander de former le gouvernement. » Je répondis que je n'y manquerai pas. C'est ainsi que, dans la soirée du 10 mai, au moment même où débutait une bataille formidable, j'assumais le pouvoir suprême de l'État, que je devais exercer sans cesse plus activement pendant 5 ans et 3 mois de guerre mondiale. Après quoi, tous nos ennemis s'étant rendus sans condition ou étant sur le point de le faire, j'ai été immédiatement congédié par les électeurs britanniques et écarté de la conduite des affaires. Au cours de ces dernières journées trépidantes de crise politique, mon pouls ne s'était pas accéléré une seule fois. Mais je ne saurais cacher au lecteur de ce récit sincère que, lorsque j'allais me coucher, vers 3 heures du matin, je ressentis un profond soulagement. J'avais enfin le pouvoir de donner des directives dans tous les domaines. J'avais l'impression de ne faire qu'un avec le destin, et il me semblait que toute ma vie passée n'avait été qu'une préparation à cette heure et à cette épreuve. J'estimais n'être pas dépourvu d'expérience en la matière, et j'étais sûr de ne pas échouer. Mais, quelle que fût mon impatience d'en arriver au lendemain matin, je dormis d'un profond sommeil, et n'eus besoin d'aucun rêve pour me réconforter. La réalité vaut mieux que tous les rêves.
C'était donc des extraits lus par Brice Cousin, comédien au Jeune Théâtre National, des extraits et des passages du premier tome des Mémoires de guerre de Winston Churchill, paru aux éditions Talendier et traduit par l'historien François Kersaudy.